Bonjour chers amis auditeurs, je suis Benoît Aguelon, j'anime le Libre Journal des Artisans, première partie, et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Aurélien Bire. Aurélien Bire est artisan joaillier. La joaillerie existe finalement depuis des millénaires, depuis que les hommes ont voulu se parer d'atours représentant soit effectivement des trophées de chasse, soit représentant des symboles de caste, et particulièrement lors de l'urbanisation des premières sociétés préhistoriques. Le bijou fait partie de notre quotidien, il fait partie d'un élément de transmission que chacun peut avoir du point de vue de ses grands-parents, de ses parents, de ses alliés, de ses aïeuls et tout ça. Le bijou. Et finalement, en fait, avec un artisan joaillier artisanal, l'expression à la fois indispensable, parce que synonyme de plaisir, synonyme de beau et de vrai, mais aussi tellement futile, parce que finalement, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bijou ? Mais oui, finalement, en fait, c'est tellement futile que c'en est indispensable. Et c'est effectivement le lien que nous avons depuis plusieurs émissions avec le Libre Journal des Artisans, c'est que nous accueillons non pas seulement des artisans, mais aussi des esthètes, des personnes qui nous parlent de leur métier, de leur savoir-faire, de leur faire savoir aussi, et de la manière dont ils transmettent un savoir-faire qui est multimémoriel. Voilà, Aurélien Bire. Donc voilà, vous êtes artisan joaillier de AB Joaillier. Alors pour les personnes qui souhaitent le suivre, il est sur Instagram, donc instagram.com/Aurélien Bire, donc Aurélien Bire, B-I-R, tout attaché, pour le trouver sur Instagram et trouver ses représentations. Alors pour cette émission sera retransmise sur le site internet de Radio Courtoisie pendant 7 jours gratuitement, et puis après effectivement je vous adresse, chers auditeurs, à payer votre petit écho de 5€ par an pour pouvoir avoir accès à cette émission tout le temps. Et cette émission est aussi diffusée sur internet via la plateforme YouTube de Radio Courtoisie. Voilà. Aurélien Bire, bonjour. Alors, bonsoir. AB Joaillier, c'est votre création. Poser la question de base, qu'est-ce qu'un joaillier artisanal ?
Alors, c'est l'idée de faire nous-mêmes à partir de morceaux de métal.
Simplement en métal.
C'est ça. De morceaux de fil, de morceaux de plaques, à partir de cire qu'on va fondre, à partir de différents éléments, on va créer des bijoux qui vont s'adapter et qui vont être faits pour une personne.
D'accord. Donc, vous faites de la grande mesure artisanale, de la grande mesure de bijoux, en quelque sorte, si je dois faire un lien avec mon métier de tailleur.
Exactement.
D'accord. Et vous travaillez, alors, on va commencer par les métaux.
Ouais.
Donc, vous travaillez tout type de métaux, tout type selon les besoins.
Principalement de
l'or. Qu'est-ce qui est plus simple ?
Alors, l'or est plus simple.
En fait, l'or est plus simple.
On travaille du platine, on travaille un peu d'argent, parfois, pour faire des objets, pour faire des choses un peu spécial.
D'accord.
Donc voilà, on va travailler sur des bijoux anciens, des fois sur des pierres anciennes, des fois sur des pierres neuves, des fois à partir d'éléments anciens pour créer quelque chose de neuf.
D'accord. Donc, alors il y a une partie création.
Une partie création, une partie restauration, transmission, créer quelque chose à partir de quelque chose d'ancien.
D'accord.
Créer quelque chose qui va se mesurer au temps. Donc, des fois, transmettre aussi à d'autres personnes quelque chose qui va pouvoir perdurer grâce à nous.
D'accord. Il y a une notion de mode dedans ou pas ?
Il y a les deux. On a des tendances. Les tendances dans les bijoux, je pense que c'est un peu comme dans tous les métiers de l'artisanat. On a des tendances. On a eu une tendance qui a duré une dizaine d'années sur l'or rose.
Oui.
Où beaucoup de gens venaient nous commander des bagues en or rose. Maintenant, on repasse sur de l'or jaune depuis 2-3 ans.
D'accord. Alors, quelle est la différence entre l'or rose et l'or jaune? Est-ce que les mineurs du Klondike, lorsqu'ils vont chercher l'or, ou alors les mineurs du golfe de Guinée, lorsqu'ils vont chercher de l'or, est-ce qu'ils trouvent comme ça de l'or rose? Qu'est-ce que c'est?
Non, en fait, l'or, à la base, il est jaune. Le 24 carats, ce qu'on appelle le 1000 millième, il est jaune. L'homme va créer l'alliage à partir de l'or, et en rajoutant, par exemple, plus de cuivre, on va avoir de l'or rose. En rajoutant du palladium, on va avoir de l'or blanc. En rajoutant de l'argent, du cuivre et du palladium d'une manière assez cohérente, on va avoir de l'or jaune, qui est le plus proche de la couleur naturelle.
D'accord, donc il faut rajouter du cuivre et du palladium pour avoir une couleur naturelle à l'or.
C'est ça, de l'argent, des fois du nickel, enfin plusieurs métaux.
D'accord.
Qui vont créer l'alliage. C'est encore un métier.
D'accord, j'appuie un petit peu là-dessus. En fait, on n'a pas d'or naturel. L'or naturel n'existe pas.
Si.
Par exemple, au niveau de ma bague.
Votre bague, c'est du 18 carats.
C'est du 18 carats.
75% de la bague, c'est de l'or.
D'accord.
Donc, qui est jaune. Jaune un peu orangé. Ce qu'on appelle de l'or fin.
Oui.
Et le reste, ça va être de l'alliage. Dans votre bague, il y a de l'argent.
D'accord.
Il y a un peu de cuivre.
D'accord.
Et il y a certainement des métaux en trace pour avoir cette couleur particulière.
D'accord. Alors, chers auditeurs, on n'est pas filmé, on est sur la radio. Effectivement, je possède une bague de mariée. Bon, voilà. Et Aurélien est en mesure de déterminer, rien qu'à la vision, l'alliage dont est composée ma bague. Je pense que c'est un vrai savoir-faire. je pense que moi, en tant qu'artisan tailleur de costumes, je suis pas capable d'aller aussi loin dans le détail. Mais donc, pour en revenir à ça, vous travaillez cette matière. Ça vous arrive de monter jusqu'à faire ces alliages ou...
Alors, non, on ne va jamais faire les alliages. Une fois dans ma carrière, j'ai fait un alliage particulier pour un client qui voulait quelque chose qui était censé lui apporter du bonheur. Donc, il m'a amené son alliage, il m'a dit, moi, je veux une bague qui soit comme ci, comme ça, avec tant d'or, tant d'argent, tant de...
D'accord.
Légalement parlant, en France, en fait, on est obligé de faire appel à des affineurs, donc ceux qui font les alliages, pour garantir à nos clients que l'alliage est au titre.
D'accord, parce qu'il y a une réglementation qui est stricte concernant les 18 carats, les 24 carats.
C'est ça.
Alors ça correspond à quoi?
Au pourcentage d'or.
Pourcentage d'or,
ouais.
Et c'est une échelle qui est logarithmique, arithmétique, c'est...
C'est 18 carats, 75% d'or.
D'accord.
9 carats, il n'y en a plus que 385% d'or. Enfin, 38,5% d'or.
D'accord.
24 carats... 100% de l'or.
100% d'or, d'accord. Bon, bah écoutez, je me plaindrai à mon joaillier pour 18 carats.
On pourra se revoir pour ça.
On pourra se revoir pour ça. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça c'est métier d'affineur. Quand vous parlez de votre carrière, aujourd'hui, Abbé Joaillier, c'est combien de personnes? C'est vous et...
C'est moi. On est 8 personnes au total.
D'accord.
Au bureau. Sur des spécialités et des différents strates de la fabrication.
Oui.
On a le... Donc moi, je suis un peu comme le chef d'orchestre. C'est moi qui vais m'occuper de recueillir ce que veut le client, faire le dessin.
D'accord.
Définir, chercher les pierres, enfin, et régler tous les problèmes qui peuvent survenir pendant la production. Après, j'ai ce qu'on appelle les joailliers.
D'accord, les joailliers, oui.
Eux, ils vont prendre le métal pour fabriquer des chatons, pour fabriquer ce qu'on appelle des demi-produits, qui vont créer après la bague, les boucles d'oreilles.
Alors des chatons, c'est pas uniquement affectueux, c'est quoi le demi-produit?
C'est ce qui tient les pierres.
Ah oui, d'accord, c'est l'infrastructure en quelque sorte.
Ouais.
D'accord.
On a aussi quelqu'un qui travaille en 3D, donc il crée des bagues en 3D sur ordinateur. Maintenant, on s'est modernisé.
D'accord. Et c'est quoi comme profil dans ces cas-là? C'est un geek? C'est...
Ouais, la personne qui travaillait avec nous en 3D, avant il faisait des jeux vidéo.
D'accord.
Donc c'est un peu dans l'idée un peu geek.
D'accord. Et il utilise un logiciel de modélisation 3D,
ouais.
Type AutoCAD
Type Rhino.
D'accord.
C'est un métier qui, pour le coup, si vous avez des auditeurs qui cherchent un travail, c'est un métier qui a de l'avenir.
D'accord. Alors, je sais que j'ai des auditeurs que j'ai pu rencontrer ce week-end et qui écoutent, que je salue, notamment une jeune fille qui va s'orienter vers l'école de joaillerie.
Ouais.
Donc, je lui fais un salut spécial pour elle. Et puis, déjà, peut-être une petite piste, peut-être d'orientation. Donc, c'est spécifique, c'est un logiciel qui est spécifique.
Ouais, c'est un logiciel qui a été développé, qui fait principalement, au départ, il était spécialisé dans tout ce qui était mécanique auto,
Oui,
pour faire des pièces de voiture,
tout à fait, oui.
d'aéronautique, et après, il s'est spécialisé plus dans les bijoux.
D'accord. Et donc, vous avez donc une sorte de mécanicien 3D, en quelque sorte, enfin
Ouais.
de designer, enfin
Qui
de.
va faire les morceaux de la bague pour les mettre ensemble. Si vous voulez, je vais.
D'accord. Alors, pour ceux qui seront en vidéo, je pense que Aurélien est en train de regarder ils sont en train de nous montrer effectivement.
Je vous décris un peu,
Un
c'est
modèle.
une bague qu'on est en train de réaliser
D'accord.
avec un énorme diamant et tout autour, il y a plusieurs chatons avec plusieurs autres pierres de couleur ou.
D'accord. Et chatons, en fait, ce sont des pierres, semi-travaillées, en forme qui sont particulièrement ici en forme de cœur avec des différentes perles tout autour.
Ouais, on va avoir tout ce qu'on perçoit comme perles, c'est des griffes
D'accord.
qui après vont nous servir d'un point de vue technique à fabriquer la bague.
Oui.
Quand la bague elle a été développée par la personne en 3D, on l'envoie à un fondeur. Le
D'accord.
fondeur, il se sert de ce fichier
Oui.
pour l'imprimer en cire, un peu comme de la cire de bougie.
Oui,
La
d'accord.
même chose. La cire de bougie, elle est mise sur ce qu'on appelle un arbre.
D'accord.
On coule du plâtre autour, on attend que ça sèche. On chauffe le plâtre,
On a
la
un
cire fond,
négatif.
on a un négatif et on coule de l'or. De
D'accord.
la bonne couleur, de la couleur qu'on veut,
De la
blanc,
bonne couleur,
rose.
oui. Donc, mélange cuivre palladium
C'est ça.
selon les. D'accord.
Selon la couleur qu'on souhaite. Nous, on récupère la même pièce en or. Et
D'accord.
après, nous, le travail d'après, ça va être de le transformer en une pièce finie. Reprendre tous les détails, faire le
Oui.
montage, ajuster les pierres
D'accord.
pour qu'elles tombent bien dans leur logement.
Oui.
Donc ça, c'est tout un travail.
D'accord. Et barber un petit peu les
Ah
scories.
ouais, bien, bien plus que ça. Là, on va sur des choses où des bagues comme ça, c'est une dizaine de jours de travail
Une dizaine de jours de travail,
pour
donc
enlever chaque détail.
80 heures à peu près.
C'est ça. Pour avoir quelque chose qui, à la fin, devienne parfait.
D'accord. Oui, c'est la recherche de la perfection. Vous livrez uniquement si le client est content et si vous êtes content.
Déjà, si moi je suis content,
Déjà.
si je pense que si ça correspond à ce que le client va vouloir.
Oui.
Après moi, dans mon travail d'artisan, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir quelque chose qui correspond parfaitement au client, à ses envies, à ses attentes. Et en général, je vais envoyer des photos au fur et à mesure, faire valider la 3D, lui
Oui.
montrer les différentes étapes. Alors déjà, parce que c'est intéressant
Oui.
de comprendre, de voir, de même des fois de toucher. J'ai des clientes qui j'ai déjà eu des clientes qui venaient au bureau pour faire une étape de leur bijou, parce qu'elles voulaient participer,
Elle-même.
ouais, elles-mêmes.
D'accord.
Des fois, j'ai des clientes qui rêvent de toucher.
Oui. Il y a un lien, il y a un lien émotionnel qui se fait déjà à travers la conception du bijou. Il y a une appropriation.
Une appropriation est quelque chose de concret.
Oui.
De concret. J'avais une fois une cliente d'une très grande famille française. Et c'était très rigolo parce qu'elle est venue travailler chez nous pendant une semaine. Alors ça se voit pas à part sur ceux qui. Mais j'ai les doigts qui sont sales, parce que je travaille toute la journée avec mes mains, avec des choses qui sont salissantes, des choses, tout ça.
Oui.
Et elle me dit, est-ce que je pourrais faire ma bague? Je dis, écoute, pourquoi pas? Mais ça va prendre plus de temps que si c'est moi qui l'a fait.
Oui.
Elle me dit, si, je veux la faire. Elle venait le matin travailler, tous les matins elle nous amenait des croissants, elle venait travailler. Et tous les soirs, elle revenait, elle avait abîmé tous ses ongles.
Ah
Tous
oui.
ses ongles étaient
Donc
foutus.
French manucure tous les jours,
Foutus.
gros budget.
Le lendemain, elle revenait avec des ongles nickel.
C'est ça,
Et elle a
oui.
fait ça pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, je lui dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, non, non, mais moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'avoir des belles mains pour mon mari et tout ça, mais j'aime casser mes ongles. Et j'avais trouvé ça très, très,
Oui.
très particulier.
On se confronte à la matière.
Ouais.
On se confronte à la matière. On voit
De
que.
souffrir d'une certaine manière.
C'est ça. C'est ça. Mais, enfin, c'est évident pour nous en tant qu'artisans. C'est pas nous qui devons nous soumettre à la matière. C'est la matière qui doit se soumettre à nous.
C'est un entre-deux, c'est comme, oui. C'est comme une danse. Moi, je le vois comme, plus comme une danse.
C'est une sorte de ballet, de devoir par faire et défaire, c'est toujours faire, en quelque sorte. C'est, oui. On peut, est-ce qu'on peut vraiment rattraper de votre côté ?
Alors, il y a des choses qui se rattrapent, des choses qui ne se rattrapent
oui.
pas. Il y a
bien
des choses
sûr.
Sur lesquelles on a aucun droit à l'erreur. Par exemple, sur les pierres. Donc, l'étape d'après, quand le bijou il a été fait d'un point de vue métal, on donne la bague au sertisseur, qui lui va mettre les pierres dans le métal.
D'accord, c'est lui qui va adapter
et qui, la c'est pierre. Lui qui va repousser non. le métal sur la pierre pour qu'elle bouge plus, pour qu'elle tienne.
D'accord.
Et lui, par exemple, lui, il a aucun droit à l'erreur.
Oui.
Toutes les pierres valent cher, toutes les pierres sont irremplaçables parce qu'elles ont été créées par la nature.
Oui.
Donc lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on se trompe sur une pièce, on se trompe sur un morceau qui est trop gros, trop petit, trop... On peut le refaire. C'est du temps, c'est du travail, on est d'accord, faire et défaire.
Toujours faire.
Toujours faire. Lui, s'il casse, c'est irremplaçable.
D'accord. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien du tout.
Sur des pierres importantes, non.
Non.
Sur
d'accord.
des pierres importantes...
Et alors, le sertisseur, matériellement, vous achetez la matière première, c'est quoi? C'est un galet?
Non.
C'est des petits galets?
C'est déjà taillé.
C'est déjà taillé, d'accord. Ça, c'est un autre métier.
C'est un autre métier qui sont tout un pan de notre métier, qui sont tous les lapidaires. Lapidaires, diamantaires, tous ces gens-là.
Alors, lapidaire et diamantaire, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux?
Le lapidaire, il taille toutes les pierres de couleur. Grosso modo,
d'accord.
les saphirs, les rubis, les émeraudes, les tourmalines, les spinels, que sais-je.
D'accord.
Vous avez des lapidaires ornementaux qui vont sculpter la matière.
D'accord, oui.
On a déjà fait des bracelets où il y avait des morceaux de cristal de roche qui étaient sculptés, qui avaient des formes très particulières. Ça, c'est comme des sculpteurs, mais dans la pierre.
D'accord.
Ils ne taillent pas des pierres fastées classiques. Et après, les diamantaires, au sens non commercial du terme, c'est ceux qui taillent le diamant à partir du brut.
D'accord, oui. Qui sort directement d'Afrique du Sud et qui est le petit galet, le petit morceau.
C'est ça, des petits cailloux.
Qui va devenir un dodécaèdre ou une forme géométrique, comment dire, standardisée.
En général, quand on trouve un diamant brut, ça ressemble à deux pyramides collées l'une à l'autre.
D'accord. Une sorte de losange, en fait. Un losange de pyramide.
Ouais, comme deux pyramides qu'on aurait collées l'une à l'autre. Ça, c'est la forme idéale du diamant. Sachant
d'accord.
que des fois, on trouve des pyramides tronquées, on trouve des pyramides plus ou moins
oui.
propres. Et le rôle du diamantaire, ça va être de trouver dans cette matière le meilleur rapport sur la pierre.
D'accord. C'est-à-dire de tailler le moins possible.
De tailler pour avoir la plus belle pierre à la fin, la plus brillante,
oui.
tout en mettant de côté les impuretés, les zones de couleur qui ne sont pas belles.
D'accord.
Pour avoir le plus beau diamant à la fin.
D'accord. Alors, là on parle de la matière, là, les zones de couleur qui ne sont pas belles, c'est-à-dire que dans le processus géologique, il y a des irrégularités qui se font.
Parfois.
Et qui font que, comment dire, dans le diamant, effectivement, on peut avoir un gros galet. S'il y a une irrégularité au milieu, ben dans ces cas-là, on est obligé de faire plusieurs petits galets.
C'est ça.
C'est fascinant.
Et moi, j'ai tendance à dire que mon métier, en tant qu'artisan, déjà, il est très multiple. Et c'est transformer ce que la nature a pu nous donner de mieux en quelque chose d'encore mieux.
Oui.
Dans le diamant, dans le saphir, dans toutes les pierres que je vais pouvoir travailler.
On est tout à fait dans la conception de l'art classique aujourd'hui, enfin de l'art classique, qui est de magnifier la nature tout en la reprenant et s'en inspirant.
Ouais.
C'est pas très moderne tout ça.
Malheureusement, non, ou heureusement.
Heureusement. Mais finalement, en fait, finalement, vous êtes un petit peu à l'avant-garde, en quelque sorte. Il y a un retour à ce niveau-là.
Ouais. Moi, depuis quelques années, je vois les gens, pendant longtemps, ils ont recherché à avoir ce que j'appelle le luxe standardisé.
Oui.
La même chose que la copine qu'on a vue dans un magazine, qu'on a vue dans... voilà. Mon travail, depuis des années, j'ai de plus en plus de clientes qui veulent des bijoux qui leur ressemblent.
D'accord.
Moi, j'ai tendance à penser que ce soit, mais dans tout, hein, que ce soit un canapé, que ce soit
oui.
Une robe, que ce soit une veste, une fois qu'on a ce que moi j'appelle les classiques,
oui.
il faut se faire plaisir. Quelque chose, des couleurs, des matières, des volumes qui vous correspondent, qui vous magnifient, qui vous ressemblent.
Oui.
Quitte à ce que ce soit clivant.
D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et j'accueille aujourd'hui le joaillier artisanal Aurélien Beer qui est joignable sur Instagram, instagram.com/AurélienBeer, BIR. Aurélien, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, effectivement, la recherche de quelque chose de particulier. Aujourd'hui, comment se compose votre clientèle ce passe de commandes spéciales, c'est ce que j'ai l'impression que vous faites que des commandes spéciales, mais vous faites
On fait 50-50. 50% de notre activité, on va faire ce qu'on appelle de la sous-traitance.
D'accord. Ou là, vous ne faites pas la
On
création.
ne fait pas la création, on va faire ce qu'on nous a demandé.
D'accord.
Ce qu'on
Bien souvent des
appelle
grandes maisons.
souvent des grandes maisons, Place Vendôme ou étrangères, qui vont nous demander de fabriquer telle ou telle bague.
D'accord.
À 10 exemplaires, 100 exemplaires, enfin des choses qui sont de la répétition.
Oui.
Donc ça, c'est 50% de mon activité et de ce que font mes équipes.
D'accord.
Avec quelque chose d'assez rassurant, parce qu'on fait toujours une chose assez standardisée,
Oui.
mais un peu ennuyeux.
Oui, c'est vrai.
A fortiori. Et 50% de notre activité, on fait des pièces pour des clients privés. Ça va aller de la restauration d'une pièce de famille,
Oui.
de la transformation d'une pièce de famille, à des créations, et parfois des créations très importantes. Des gros colliers, des choses pour
D'accord.
des événements, ça peut être des bagues de fiançailles, ça peut être. On fait beaucoup de bagues de fiançailles,
D'accord, oui.
forcément, parce
Oui.
que c'est quand même beaucoup d'alliances.
C'est ça, oui. Mais c'est en même temps, vous avez une clientèle qui est extrêmement sélective. Enfin, c'est pour une bague de fiançailles, il y a un jeune couple qui se lance dans la vie, faire appel à un joaillier artisanal,
Alors,
c'est une
c'est.
recherche d'excellence, mais c'est aussi la capacité, effectivement, une capacité à faire appel à un artisan. Moi, je fais très peu de costumes de mariage, par exemple.
Ouais.
Donc, parce que les jeunes n'ont pas encore les moyens de faire appel à mes services. Mais vous avez une clientèle qui est totalement exclusive.
Oui et non. J'ai une partie
Ah.
de ma clientèle qui est très exclusive,
Oui.
qui s'achète des bijoux. Enfin, moi, j'ai certaines de mes clientes qui m'achètent des boucles d'oreilles qui vont être portées qu'une seule fois dans leur vie. Elles vont avec une robe. Ou
D'accord.
des bracelets qui vont avec pour un mariage, pour un événement, pour une soirée.
Très beau.
Très
Très beau.
intéressant.
Très intéressant.
Très intéressant. Mais c'est peu de clientes.
Oui.
C'est peu, c'est souvent des très gros chiffres, des très belles pièces et des mois de travail pour une soirée.
Oui, c'est
Enfin,
ça.
une fois, j'ai une anecdote qui est assez amusante. J'ai une cliente qui n'est pas française qui m'a commandé un collier avec des têtes de mort tout autour. Les
Oui.
têtes de mort étaient sculptées en quartz, dans plein de matières différentes. Sur chaque tête de mort, je devais faire des initiales en diamant.
Ces initiales.
Des initiales différentes sur chaque tête de mort. Il y avait 13 têtes de mort,
C'est 13 et demi.
13 initiales.
D'accord.
Donc, je lui fais le dessin, je pose pas de questions. Moi, dans mon métier, la discrétion, ça fait partie de.
Oui.
Et quand je lui livre, c'est une cliente que je connais depuis assez longtemps, et je lui dis, mais pourquoi?
Oui.
Pourquoi ce collier?
Oui.
Elle me dit, je fais une soirée spiritisme.
Ah. Et chacun des invités?
Elle avait fait les initiales de chacun de ses invités sur chaque tête de mort sur le collier qu'elle portait pour la soirée.
Énorme. Énorme.
Donc un collier pour une soirée.
Un collier pour une soirée.
Mais des choses comme ça, une fois j'ai fait un collier style Joséphine Baker pour une soirée déguisée.
D'accord. Ah oui.
Le déguisement de la cliente, c'était Joséphine
Joséphine
Baker.
Baker. Mais c'est marrant parce que vous travaillez dans. Enfin, c'est. Vous faites de l'intemporel, les diamants sont éternels, comme on disait, comme Claudia, et que je remercie qui a la réalisation. Le faisait passer au bobino et en même temps ils ont une attitude de consommateur invétéré et d'hyperconsommation sur des produits exceptionnels mais des produits comment dire des produits enfin intemporels des produits qui sont des produits durables.
Oui, une partie de la clientèle réagit comme ça ou recherche ça.
Ouais, il y a peut-être une notion de snobisme dans ceci. Mais c'est intéressant, on rêve toujours d'avoir des clients comme ça.
Ouais, il en faut
Mais
plus.
c'est quelque chose qui est. Il en faut toujours plus.
Il en faut toujours plus. Et
Mais.
toute une partie de ma clientèle, c'est plus pour des choses qu'on va appeler plus classique. Des bagues de
Classique.
fiançailles, des alliances, des cadeaux de naissance, des choses comme ça. Et là, donc, on va chercher la pierre parfaite pour eux. Et assez souvent, ça leur coûte pas plus cher de venir chez moi, d'avoir une fabrication française, et un bijou qui a été fabriqué à la main, à Paris, avec des belles pierres,
oui.
Une recherche plus poussée sur les pierres, par rapport à leur budget, par rapport à leur demande, que s'ils vont dans une maison plus ou moins connue, où ils vont payer un pas de porte, une marge, oui. et des choses comme ça.
Oui,
je pense
ça.
Que c'est un peu comme chez vous. Dans l'absolu, c'est pas le costume pour monsieur tout le monde.
Tout à fait.
Mais en même temps, c'est pas forcément hors de prix ou inaccessible.
Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on est assez... on est sur des prix de marché, sur une qualité où, effectivement, il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle derrière la pièce qui est faite, parce que le client connaît les artisans, voit les artisans, et finalement, en fait, le prix n'est pas cher par rapport au travail qui a été fait, du point de vue strictement économique, et la valeur du bien est inestimable, parce que justement, on a sué dessus. Et effectivement, je confirme, vous avez les doigts sales, mais parce que vous avez travaillé sur des projets.
Toute la journée.
Et donc, vous avez mis de la sueur, vous avez pensé au client, j'imagine. Vous avez pensé au client quand vous avez réalisé votre pièce.
Je pense au client, je pense à comment il va le porter. Quelle émotion, en fait, ça va donner.
Oui.
Moi, à chaque fois, je me retrouve comme un rond de flanc, mais des fois, j'ai des clientes, elles se mettent à pleurer quand je leur livre leur bague.
Ah, c'est impressionnant.
Et c'est assez unique et en même temps, parce que derrière la pierre, c'est la pierre de leur maman, c'est la pierre de leur famille, c'est l'engagement de leur mari, c'est beaucoup de choses.
Mmh.
Là, ouais. La semaine dernière, j'ai livré une bague pour un client qui a acheté un très beau diamant à sa femme. Parce que ils doivent avoir 50, 60 ans maintenant.
Oui.
Et à l'époque, quand ils se sont mariés, il n'a pas eu les moyens de lui offrir une bague qu'elle méritait.
D'accord.
C'est ce qu'il m'a dit.
Oui. Oui, mais
ces mots.
C'est touchant.
Et je trouvais ça génial.
C'est génial.
Elle m'a appelé, elle m'a envoyé, parce qu'en plus, il lui a fait la surprise. Elle pleurait. Moi, j'étais à la maison avec ma femme, mes enfants. J'étais là, bon.
Oui.
Moi, j'étais plus gêné qu'autre chose.
Oui.
Et je trouve ça génial, ces moments-là.
On rentre dans l'intimité des gens, en quelque sorte. On rentre dans l'intimité des gens,
des fois même trop dans ce qu'ils ressentent.
D'accord. Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie avec Aurélien Bir, artisan joaillier artisanal. J'ai une question d'un auditeur qui nous pose, je reconnais son adresse email, effectivement, qui est un auditeur fidèle. Alors, bonsoir messieurs, excellente émission. Merci beaucoup. Je tiens à dire aux autres auditeurs que ce n'est pas ma maman ni un cousin. J'aurais plusieurs questions. Est-ce que les poinçons sont fiables? Quels sont-ils? Qui les pose et peut-on les contrefaire? Est-ce que la hausse du prix de l'or freine la demande? Alors, pour l'anecdote, je suis allé faire expertiser une bague de ma grand-mère et on me l'a dédaigné car elle était en platine. Or, dans ma jeunesse, le platine était le métal le plus cher, bien courtoisement. Merci, chers auditeurs.
Alors, donc, beaucoup de questions en une.
Beaucoup de questions, oui. Donc, les poinçons. Effectivement, sur ma bague de mariée, j'ai un poinçon. Alors, est-ce que c'est fiable? Quels sont-ils qui les posent? Qu'est-ce qu'un poinçon, en quelque sorte?
Alors, il y a deux poinçons sur votre bague, comme sur la plupart des bagues.
Oui.
Un qui est une spécificité française, c'est la tête d'aigle. La tête d'aigle, c'est une spécificité française.
D'accord.
Qui est contrôlée par les douanes françaises.
D'accord.
Donc ça a l'énorme avantage d'être extrêmement fiable.
D'accord.
Fiable et un gage de qualité. Pour des bijoux achetés en France. Moi, j'ai eu plusieurs fois des cas de clients qui achetaient des bijoux à Dubaï, à plein d'autres endroits. Et là-bas, ils n'ont pas les contrôles des douanes. On tient des livres de police. On a quand même tout un volet fiscal et de contrôle qui est très important et qui en même temps permet de garantir aux clients la fiabilité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur l'alliage, on ne peut pas faire nos alliages nous-mêmes. C'est interdit.
D'accord.
D'un point de vue légal.
C'est réglementé, oui.
C'est réglementé.
C'est un monopole, c'est pas un monopole, c'est un monopole délégué, quelque sorte.
Ouais, c'est un monopole délégué qui permet d'être sûr que votre or, sera le même que vous l'achetez chez moi ou chez n'importe qui en France.
Mmh. C'est une garantie de qualité.
C'est une garantie de qualité du métal. Après, chaque bijou fabriqué en France, et encore là on parle d'une spécificité française, a un poinçon qui garantit que ça a été fabriqué chez moi, chez quelqu'un d'autre, et qui garantit la traçabilité du bijou.
D'accord.
pareil, ça c'est pas ou peu contrefait.
Vous avez votre, enfin, une sorte d'armoirie, un sigle particulier, Aurélien Beer, joaillier, qui dit que ça vient de chez vous, pour garantir la chose. Et il y a un registre national de.
Avec le poinçon, on peut reconnaître qui a fabriqué quel bijou. Et je dirais encore plus, pour les auditeurs, ce qui peut être intéressant, c'est de vous enlever votre bague, vous regardez sur votre bague, si le poinçon il est de forme ovale, c'est de l'import. Donc c'est un bijou qui vient de l'étranger.
D'accord.
Qu'importe où il a été fabriqué à l'étranger. Si le poinçon il est de forme losange, ça a été fabriqué en France.
D'accord, je suis rassuré. D'accord.
Après, pour le sujet du platine,
oui.
Jusqu'à il y a quelques années maintenant, je pense à peu près avant le Covid, le platine était plus cher que l'or.
Oui.
Et le platine était plus prestigieux.
Oui.
Les plus beaux bijoux étaient faits en platine.
Mmh.
Depuis maintenant le Covid, le platine est devenu moins cher que l'or.
D'accord.
En termes de valeur.
Oui.
Toujours aussi prestigieux, mais moins cher que l'or. Et sa valeur est actuellement presque de la moitié.
D'accord. Aujourd'hui, on est à combien? À peu près 1700, 1800 dollars l'once ou l'once d'or?
Alors,
on est à
le kilo d'or, on est à plus de 90 000 euros.
D'accord.
Moi, je parle en kilo.
D'accord, ok. Oui, non, mais il ne faut pas se gêner hein, par rapport à une once qui est quelques grammes. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord, 90 000 euros le kilo d'or et donc 45 000 le platine.
Ouais.
D'accord.
Presque la moitié, en fait.
D'accord. Donc finalement, en fait, c'est pas les diamants qui sont éternels en termes monétaires. Finalement, c'est surtout l'or qui est la valeur refuge et qui demeure une valeur refuge.
Dans notre métier, ça a été un vrai sujet ces dernières années.
Oui.
Justement sur le côté refuge de l'or ou pas. Après,
oui.
Ça, c'est presque quelque chose qui est presque personnel.
D'accord.
Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que l'or n'est pas forcément une valeur refuge. Et c'est surtout une valeur qu'il ne faut pas acheter quand on est au plus haut.
Ah bien sûr. Mais le problème, c'est de savoir quand est-ce que c'est plus haut.
Bah, quand on bat des records toutes les semaines, on est au plus haut dans la théorie.
Oui, d'accord.
Après, l'or a toujours été quelque chose qui se transporte, qui se garde et qui vaudra toujours quelque chose.
Oui, qui est imputrescible et qui reste le même tout le temps. Quoi. Enfin, qui...
bah, un petit peu comme ce vieux film La soif de l'or.
Ah oui. Avec
De Funès. Où il avait cet attachement presque charnel à l'or, comme si c'était une garantie.
Oui, oui, oui. Alors que finalement, en fait, depuis des détachements de l'économie, de la masse monétaire de vis-à-vis de l'or, effectivement, c'est un bien comme un autre. Mais c'est
un bien non putrescible.
Non putrescible. Oui, tout à fait. Oui.
Moi, j'ai encore des clientes, des personnes un peu âgées qui viennent m'acheter des petites pièces en or pour les offrir à leurs petits-enfants à Noël.
Oui, ce qui est plus sympa qu'un billet.
En tout cas, ça a l'avantage que les petits-enfants ne pourront pas l'utiliser pour s'acheter des bonbons.
Oui, c'est vrai, ça permet de garantir.
Ça permet de garantir qu'elles vont le garder un peu.
Mais ça, c'est aussi un vrai effort de transmission encore.
Oui.
Lorsque... vous dites aussi que vous refaites des bagues ou vous refaites des bijoux à partir de bijoux anciens, de bijoux de famille.
Moi, c'est un des meilleurs moments.
Ouais.
Quand je vois un bijou qui a été travaillé par quelqu'un que j'ai jamais connu. Hein,
oui.
Et que je peux lui donner une deuxième vie, une troisième vie, une je ne sais pas combien deième vie.
D'accord.
Je trouve que c'est il y a quelque chose de beau là-dedans.
Il y a, vous arrivez à partir des poinçons justement à retrouver les fabricants et je vais plus loin peut-être, mais ça c'est presque un boulot d'archiviste, mais de retrouver le style de ce fabricant qu'il avait et peut-être de, je sais pas, de s'en inspirer, je sais pas.
Alors oui et non, il y a certains fabricants qu'on n'arrive pas à retrouver.
D'accord.
Déjà parce qu'avec le temps, parfois, les poinçons s'estompent ou s'effacent.
Oui.
Ou ils sont effacés par des gens lors de mise à taille, lors de restauration précédente, si la restauration a mal été faite.
D'accord.
Donc, il y a ce syndrome-là. Après, parfois, on voit un bijou et on sait à qui il a appartenu. Il y a certaines très belles maisons.
Oui.
Qui sont maintenant fermées, qui n'existent plus.
Oui.
Quand on voit le bijou, on reconnaît l'émotion.
Expliquez mieux.
Il y a des maisons, Boivin, Belperron,
oui.
Des très très belles maisons comme ça. Il y avait un feeling dans le travail. Le bijou, il a beau avoir 50 ans, 100 ans,
ouais.
Le bijou, il est beau. Le travail, il est beau. Mais la recherche esthétique était tellement bonne.
D'accord.
Que c'est beau. Vous avez des bijoux de l'enfant, qui a été un façonnier très connu, qui a travaillé pour Van Cleef, qui a travaillé pour Hermès, qui a travaillé pour Fred, qui a travaillé pour presque tout le monde. Il avait un esthétisme et un sens du détail qui était tellement extraordinaire qu'on reconnaît son travail à travers la maison qu'il a pu faire.
D'accord. Ah oui, mais c'est... Oui, c'est la beauté à l'état pur.
C'est la beauté à l'état pur. Et après, on regarde son poinçon et on dit « Ah tiens, c'était lui
». D'accord. Oui, c'est ça. La beauté n'a pas besoin d'explication, en quelque sorte.
Pour moi, la beauté, c'est comme l'extraordinaire. Pour moi, quand on doit donner le prix à une chose pour qu'on la trouve belle ou intéressante, c'est pas un vrai intérêt. Moi, ce que je dis toujours, c'est... J'ai souvent pour des clients qui viennent pour des bagues de fiançailles. Donc, en général, on fait une sélection que j'envoie d'abord à monsieur pour voir les budgets, pour arriver à cadrer les options plus basiques.
Oui, oui.
Et après, je les vois tous les deux pour choisir leur pierre. Et souvent, ce que je dis, c'est arrêter de regarder la qualité de la pierre, la pureté, enfin, des choses très techniques. Allez vers la pierre qui vous parle. La pierre que quand vous la, que si demain vous réveillez et que vous l'avez pas, vous la regretterez.
D'accord. Ouais, c'est un lien, vous créez un lien émotionnel entre un minéral et un animal, en quelque sorte, qui est l'homme.
Peut-être.
C'est les cristaux qu'on utilise pour décomposer la lumière, qui ont été servis pour décomposer la lumière. C'est un lien avec le monde physique. Il y a un lien quasi mystique, en fait, avec le monde physique.
Ah ben,
que chacun possède.
Dans les pierres, mais 100%. Il y a des choses qui sont... Moi, j'ai des clientes qui collectionnent les pierres. Vous avez, historiquement parlant, il y avait une des plus grandes courtisanes qui s'appelait la Castiglione. Elle a ruiné ses amants pour s'acheter des pierres qu'elle gardait dans deux coffres de part et d'autre de son lit. Et la nuit tombée, elle ouvrait ses coffres, elle sortait ses pierres, elle avait les plus belles pierres. Elle aurait vendu n'importe quoi pour s'acheter des pierres.
D'accord, ouais, il y a... C'est un peu comme l'astrologie, en quelque sorte aussi. Quand vous dites la nuit tombée,
ouais.
Je pense aux étoiles, l'astrologie. Je pense à un pouvoir magique des pierres, à un pouvoir, à un lien qui existe entre le porteur et cet objet, en fait. Qui n'est plus un objet, qui est une émanation de soi-même.
Oui, et comme un prolongement, comme quelque chose qui vous parle, qui vous rassure, qui vous... Moi, dans ma consommation personnelle de bijoux, je m'achète des bijoux qui commémorent des événements.
Oui.
Quand j'ai monté la société, je me suis acheté un bracelet.
D'accord.
Enfin, je me suis fait, en fait.
Oui,
plus qu'acheter.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
je me suis payé à moi-même.
On peut s'équiper nous-mêmes.
C'est ça, on peut s'équiper nous-mêmes. Je me suis acheté un bracelet pour commémorer ce passage.
Oui.
Comme une bague de fiançailles, au final, c'est un passage.
Oui, c'est ça. C'est un engagement. C'est un pari sur la vie. C'est quelque chose qui doit être commémoré et
éprouvé.
Éprouvé, ouais. Et un engagement qui se veut durable. Enfin,
oui.
Il peut y avoir l'illusion de l'éternité, mais on est tous mortels. Mais finalement, en fait, c'est quelque chose qui va nous survivre.
La plupart des bagues de fiançailles, elles vont pouvoir passer de génération en génération, être montées, être transformées. Pour les enfants, les petits-enfants.
D'accord. Alors, une autre question. Donc, le poinçon à l'aigle, vous confirmez, n'est pas posé par le joaillier.
Alors,
posé par...
Je ne confirme pas.
Non.
Il y a deux solutions en France. Ou vous allez aux douanes, qui vous posent les poinçons.
D'accord.
Ou vous demandez la délégation de poinçons. Là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique.
Oui.
Si vous rentrez dans la délégation de poinçons, vous devez tenir un registre de tout ce que vous avez poinçonné à l'année. Une
D'accord.
fois par an, vous leur envoyez le registre pour dire j'ai
oui.
poinçonné tant de bijoux, j'ai fait tant de tests, parce qu'il faut faire des tests, destructifs ou non destructifs, sur
D'accord.
chaque bijou.
D'accord. Et alors, quels sont les plus anciens poinçons pour l'or Donc l'auditeur sait par exemple que pour l'argent, il y avait Vieillard avant la Minerve.
Ouais.
Ça vous dit quelque chose?
Oui.
D'accord.
En fait, au fur et à mesure des époques, les poinçons ont évolué.
Ah oui, c'est ça, ces fameux aigles d'aujourd'hui.
C'est ça, la tête d'aigle d'aujourd'hui, ça a été plusieurs choses. Et ça permet aussi de retracer, en fonction du poinçon qu'il y a sur le bijou,
Oui.
on sait de quelle époque il a pu être fabriqué.
D'accord. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, pourquoi l'aigle?
Alors ça,
Peut-être
c'est
parce qu'on
pour le coup, c'est la colle.
a Jupiter à l'Élysée, non?
Honnêtement, j'en ai aucune idée.
On
J'ai
a.
jamais la tête de Minerve pour le platine, l'aigle pour l'or, à regarder.
D'accord.
À regarder, à vérifier, parce que j'en ai aucune
Ou
idée.
un héritage napoléonien, peut-être.
Peut-être.
Ce qui serait
Il a
toujours très
beaucoup
beau.
fixé de choses quand même.
Il y a beaucoup de physique. Et puis son petit-neveu aussi.
Oui.
Donc voilà. Bon, on va passer une petite entracte. Donc vous êtes avec Aurélien Bir, qui est artisan joaillier, et vous êtes sur Libre Journal des Artisans, première partie. Donc on va laisser passer Bobino. Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, on reprend le fil de notre émission avec Aurélien Bir, artisan joaillier, que vous pouvez suivre ses créations sur Instagram, instagram.com/ ou la barre transversale, pour parler en français. Aurélien, comme le prénom, Bir, tout attaché, BIR, tout simplement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi lui envoyer un email chez abjoaillier, tout attaché, @gmail.com. Aurélien, là, on a parlé beaucoup d'émotions. Ça vient, enfin, du point de vue du client, de votre point de vue, on sent la passion. D'où vient cette passion? Quel est votre parcours pour arriver ici, ce soir, 2 mai, sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Artisans?
Alors, je ne saurais pas trop le dire. Je sais que j'ai toujours été passionné des pierres. Dès tout petit, je collectionnais des cailloux que je trouvais dans la rue, sur la plage, n'importe où.
D'accord.
Après, vers 10-12 ans, j'ai demandé à mes parents un diamant à Noël.
Bon, ça va, c'est.
Oui, enfin, ça restait une toute petite pierre.
D'accord, très bien.
Ça restait une toute petite pierre que plus tard j'ai intégrée dans un bijou pour ma femme. Mais c'était une petite pierre parmi les autres. Pour moi, c'était très important, cette pierre. Parce que
D'accord.
c'était un symbole.
Ouais, à 10 ans.
Ouais, 10-12 ans.
D'accord, une vocation précoce.
Une vocation, en tout cas, toujours une passion. Très tôt, je faisais du dessin. Ma mère était styliste, elle travaillait dans la mode, pour le
D'accord.
coup. Je faisais du dessin, je faisais de la sculpture, je faisais beaucoup de
Ah
milieux
oui.
artistiques. J'aimais tout ce qui était artistique, tout ce qui était manuel, tout ce qui était artistique. Vers 15 ans, j'ai voulu m'orienter dans la joaillerie. Donc j'ai commencé un CAP, après un BMA, après un DMA. Ça a changé, mais.
Alors, brevet métier
Ouais.
d'art et
Diplôme
diplôme
des
métier
métiers d'art.
d'art, bac plus 2, c'est ça.
C'est ça. Mais ça a rechangé depuis.
Ça a rechangé, ça ne cesse de changer.
Ça change tous les 5 à 10 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes orienté sur
Je me
un
suis orienté sur la
BMA
joaillerie
plus DMA,
et
oui.
après sur la création.
D'accord, c'est une filière particulière de la joaillerie, c'est la filière Rennes, c'est.
C'est plus comme une sorte d'orientation, donc c'est le DMA, en tout cas à l'époque, qui permettait de faire quelque chose de plus créatif. Parce que moi, je voulais pas faire que de la fabrication, je voulais aussi faire aller de A à Z.
Aller de A à Z, oui, c'est ça. C'est la recherche de maîtriser la chaîne de valeur, pour parler comme un vulgaire étudiant en école de commerce, dont j'ai été. Je tiens à le dire pour tous les auditeurs qui vont s'énerver parce que je parle des écoles de commerce comme ça. Donc c'est quelque chose qui est maîtrisé en fait de A à Z pour pouvoir ensuite rentrer particulièrement dans un domaine en particulier, dans un domaine du métier.
Moi, dans ma démarche, c'était plus de comprendre ce qui était possible, pourquoi
Oui.
c'était pas possible. Enfin, quelque chose de plus concret, plus guttural, en fait.
D'accord.
Après,
C'est.
quand j'ai fini mes études, je voulais partir à Londres pour finir encore un autre diplôme. J'ai été contacté à l'époque par la maison Chanel, où j'ai travaillé un petit peu, mais en création pure.
D'accord, dessin.
Ouais, ce qui était une partie de ma vie un peu frustrante parce que on faisait des dessins sur un thème.
Oui.
En fin de journée, on rendait au chef de studio les dessins.
Oui. Et ils étaient. Vous saviez pas s'ils
On
étaient
savait
pris ou
pas
pas?
ce qui s'était passé. Le lendemain, on nous redonnait un nouveau thème, on refaisait des dessins.
Ah d'accord. Ouais.
On les donnait, on savait plus ce qui se passait.
D'accord. C'est frustrant. C'est une division du travail qui est...
Ouais, qui était compliquée, en tout cas dans ma perception.
Oui.
Ça a été une expérience qui était... Enfin, moi, j'ai été élevé en province, je suis l'aîné d'une famille, on est six. Donc, j'étais très provincial dans ma vision des choses. Arrivé à Paris, c'était génial. La capitale, les soirées, enfin, quelque chose de très glamour. Et je finis à faire des dessins qu'on me demande sans avoir de retour.
Ah oui, mais ça c'est très frustrant. C'est très frustrant. C'est la moitié du travail un petit peu qui est. C'est la moitié du travail qui est mise de côté, quoi. C'est l'hyper spécialisation.
Dans des grandes maisons maintenant, des grandes marques, où chacun doit avoir son métier, sa spécialité, et surtout pas regarder la spécialité du voisin.
Surtout pas regarder la spécialité du voisin.
Ou la connaître.
C'est-à-dire
après cette expérience, j'avais voulu aller dans une autre maison.
Oui.
Et donc, ils me proposent le même poste. Et je leur dis, moi, j'aimerais bien faire le développement 3D, faire le suivi de prod, pour, comme mon bébé.
Oui.
C'est-à-dire, je pense que dans ce qu'on fait, on y met une part de nous, une part de nos tripes, une part de notre passion.
Tout à fait.
Et ils me disent, non, il faut choisir.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Vous êtes une unité économique qui doit cracher et vous restez dans votre...
Dans notre segment.
Oui, c'est ça, dans bandenage, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai encore une question d'auditeur. Alors, bonsoir, messieurs. Alors, c'est une question pour vous. Et presque de conseil, hein. On va faire du conseil en gestion de patrimoine et gestion de bijoux. Lorsqu'on a des bijoux anciens de famille à vendre, votre invité conseille-t-il de les porter à la fonte ou bien de les proposer à un bijoutier? Merci pour l'émission, merci cher auditeur.
Alors, je vous conseille de m'envoyer un email, de me les ramener. Chaque bijou est différent.
abjoaillier@gmail.com.
Il y a un vrai sujet sur les bijoux anciens. Il y a des bijoux qui sont trop usés. Donc, oui. À part malheureusement les valeurs de matière, les pierres précieuses ou pas, dans un côté, l'or de l'autre, il n'y a pas de valeur sur le bijou.
Non.
Par contre, donc ça va représenter, on va dire... entre 70 et 90% des bijoux. On va voir. Par contre, il y a certains bijoux, c'est tellement dommage de les casser, les abîmer. C'est comme un patrimoine.
Oui, c'est ça. Il y a un poinçon. Rien que poinçon, déjà, ça raconte une histoire.
Ouais.
Il y a l'histoire familiale qui vient en plus.
Et il y a surtout certaines pièces qu'on ne pourrait plus refaire. Il y a des savoir-faire qui ont été perdus.
Ah oui. Ah bah alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est... Quels sont les savoir-faire et pourquoi?
Alors,
parce que on s'oriente vers trop de bandes et tout ça, il n'y a plus de...
Non, parce qu'il y a tout un tas de métiers qui étaient, on va dire, avant-guerre. Les gens, ils achetaient par exemple des boîtes à cigarettes, des étuis à parfum.
Oui.
Avec en or, ciselé, tout ça. Des travails colossaux. Et des savoir-faire particuliers. Maintenant, personne n'achèterait une boîte à cigarettes en or.
Je pense que c'est peut-être une idée que peut avoir certains de nos auditeurs. Je pense que...
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Une boîte à cigarettes...
On faisait des sacs à main.
Oui, ou même, je pense, aux anciennes valises. Mm-hmm. Où tout autour des valises, en fait, il y avait une place pour les flaconnages de la trousse de toilette de monsieur. Et effectivement, chacun des flacons était fait à la taille... ou alors c'est peut-être plutôt les valises qui étaient faites à la taille des flacons.
Les deux.
Ou les deux. Et effectivement, le sertissage en or, par exemple, des couvercles et tout ça, de la crème et tout ça, c'est effectivement, je pense que... Écoutez, chers auditeurs, si vous avez quelques millions éventuellement pour investir dans ce genre d'idées, effectivement, on est tout à fait disponible avec Aurélien Bir, joaillier artisanal, et effectivement réfléchir à un modèle de business, un modèle d'activité, pardon, excusez-moi, grâce au cochon, on n'a pas le droit de parler en franglais sur Radio Courtoisie. C'est peut-être une idée éventuellement à développer, à remettre au goût du jour. Parce que finalement, un homme, qu'est-ce que ça porte comme bijoux?
Alors, de plus en plus de bijoux. Pour le coup, ça c'est une tendance de fond qui arrive. Jusqu'à il y a 5-6 ans, le bijou pour homme, c'était des boutons de manchette, une montre.
Montre, médaille de baptême.
Très peu de bijoux, en fait. Même les médailles de baptême, tout ce qui était gourmette, ça se portait d'une manière plus anecdotique.
Oui.
Très anecdotique, en fait. Peu d'hommes portaient même une chaîne ou quelque chose de...
Oui.
Un vrai bijou précieux, on va parler de ça. Maintenant, les hommes, depuis quelques années, ont envie d'avoir des bijoux. Des bijoux qui leur ressemblent, des bijoux des fois assez typés.
D'accord.
Moi j'ai fait une bague pour un client à moi qui est avocat,
oui,
assez connu en France, et il s'est fait une bague qu'il représente.
Avec un élément déterminant de sa personnalité, une sorte d'armoirie qui va parler de lui.
Qui parlerait de lui, et surtout qui fait que, comme si, quand on voyait la bague, on reconnaît le personnage, et pour inspirer un peu de la peur.
Excellent.
Pour inspirer de la peur dans les tribunaux. C'était assez rigolo comme projet.
Oui, c'est, vous avez, il y a une idée,
une intention.
Un marqueur identitaire. Ouais, c'est ça, vous travaillez sur un marqueur identitaire.
Ouais. Parfois, je trouve ça génial de travailler quelque chose qui va représenter la personne.
Oui.
Qui va lui apporter quelque chose en plus.
D'accord.
Je pense que c'est un peu comme la même chose que vous.
Oui.
Ça apporte de la confiance, ça apporte...
On marche différemment quand on est bien habillé, quand on se sent bien habillé, quand c'est une seconde peau et qu'on n'a pas à se soucier de la manière dont on est habillé, parce que le matin, on met 5 minutes pour choisir sa tenue, mais on sait qu'on est élégant. Et c'est tout, et puis après on marche dans la rue, on est conquérant.
Ouais.
Et effectivement, j'ai un client qui aussi, on parlait des têtes de mort, qui lui prend porte ses doublures de costumes de ville avec uniquement des têtes de mort. Parce que pour lui, costume, c'est une armure. Donc, effectivement, et à l'intérieur de l'armure, effectivement, il y a la tête de mort. Pour montrer que
c'est un combattant.
C'est un combattant dans son métier, oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'il veut faire passer, ça fait partie de son image.
Ouais, ça fait partie de l'image qu'il veut renvoyer, et peut-être même que quand il bouge le bras, qu'il voit les têtes de mort, ça lui rappelle comme un mantra.
C'est ça, bah c'est comme oui, c'est ça, c'est la bague de votre client avocat, oui, c'est ça, c'est le mantra, c'est le doudou qui fait en sorte que le bijou pour homme, c'est aussi un jouet en plus.
Ouais, c'est un jouet. Ça peut être une extension de la voiture. Moi j'avais fait des porte-clés. Des porte-clés en or pour un client qui avait une très belle voiture.
Ouais.
Et c'était le porte-clés pour sa voiture.
Ben voilà.
Il osait pas, il aurait pas osé des bijoux extravagants, mais le porte-clés c'était bon.
Ouais, c'est possible.
C'était possible. Ah, dans notre métier, on fait des choses des fois. J'avais fait des colliers pour chiens.
Des colliers pour chiens.
Ouais, pour une américaine.
D'accord.
Qui avait fait un collier tout en diamant pour un petit chien.
Ah.
Un
d'accord.
Tout petit chien.
On sait bien, tout petit chien, ça fait moins de diamants.
Ça fait moins de diamants, mais c'était gros.
C'était gros.
Et en rigolant, je lui dis, mais tu te rends compte que potentiellement, on va te voler ton chien.
Oui.
Pour le collier,
oui.
Et elle me dit, dans ces cas-là, je préférerais qu'on me rende le chien qui garde le collier.
C'est impressionnant. Oui, mais c'est vrai que c'est un animal, donc...
C'est le plus important.
C'est un être sensible, ouais, oui,
c'est,
tout à fait.
Un
oui.
Être doué de... Et plein de choses. Hein, moi, il y a 5-6 ans, j'avais fait des boucles d'oreilles. J'avais une cliente qui avait deux chiens, et les boucles d'oreilles, il y avait la tête de ces deux chiens qui étaient sculptées dans de la pierre. Quand on parlait tout à l'heure des sculpteurs de pierre.
Ouais, oui, c'est complètement fou.
C'était très rigolo.
C'est très rigolo. C'est des idées comme ça qui viennent. Est-ce que vous faites moi je vois aussi il y a une sorte d'entraînement mutuel lorsqu'on connaît bien le client dans oser quoi.
Ouais, il y a des choses que moi je fais des fois pour des clients, c'est qui partent d'un délire, qui partent d'une idée, qui partent de quelque chose qu'elles auraient jamais osé 1 an, 2 ans, 6 mois avant.
Ouais, c'est un parcours. Enfin, je parle beaucoup d'itinéraires d'élégance pour pour nos métiers sur le textile, sur la poterie et tout ça. Mais pour vous, effectivement, en joaillerie, il y a aussi un itinéraire où parfois on arrive à se lâcher au fur et à mesure. Enfin, à mesure que les finances aussi permettent, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une somme infinie de possibilités de création.
Presque.
Ouais.
Malheureusement, c'est souvent le budget qui finit par limiter la création. Mais sinon, en tant que création, tout est possible.
Oui.
À un moment donné, j'avais un client. Il a fait graver un mot en anglais sur un diamant.
D'accord.
Peut graver le diamant.
D'accord. Oui, on peut graver le diamant. Je savais, oui.
Et... Il a fait graver un message sur le diamant de sa bague de fiançailles.
D'accord, ça commençait par un F et il y avait des étoiles après, c'est ça ?
Non, c'était I love you.
D'accord.
C'était une bague de fiançailles.
C'était une bague de fiançailles.
Il fallait que ça reste quand même un minimum.
Un peu classe.
Un peu classe quand même.
Mais vous pourriez faire.
Ah, théoriquement, oui.
Oui, oui.
je trouvais ça dommage, mais je peux le faire.
Alors oui, oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes un peu garde-fou de certains de vos clients?
Alors,
est-ce qu'il y a des limites, comment dire,
à l'extravagance?
À l'extravagance, ouais. Où là, on peut toucher le mauvais goût et que vous voyez que ça va toucher au mauvais goût et que vous dites stop, on va rétropédaler et voilà ce que je vous propose.
Alors moi je sais pas comment vous réagissez avec vos clients. Moi je donne mon avis, oui. Mais je fais ce qu'on me demande.
D'accord.
C'est-à-dire chacun son mauvais goût,
oui.
Ou son bon goût.
Oui.
Je sais que plusieurs fois j'ai fait des choses. Moi ce que je dis toujours à mes collaboratrices, aux gens avec qui je travaille, c'est ce qu'on doit faire, on doit toujours le faire le plus au bout possible, le plus beau possible,
oui.
Comme si c'était pour votre maman, comme si c'était pour vous, comme voilà. Ça c'est l'idée. Par contre, on ne fait pas que des choses qu'on aime. Des fois, je fais des associations, oui. De couleurs que je trouve pas du tout à mon goût.
D'accord.
Des fois, je fais des volumes de bijoux que je trouve ridicules.
Oui, d'accord.
Ou trop gros, ou trop petit, ou mal proportionné.
Oui.
Mais je le dis. C'est-à-dire, moi, je donne mon avis.
Oui.
Je dis, écoutez, je trouve que c'est pas joli.
Oui.
Ou j'ai une histoire d'une cliente qui travaillait dans la joaillerie.
Ah, ça c'est dur.
Troisième mariage, elle me renvoie son troisième mari pour acheter la bague de fiançailles du troisième mariage. Elle lui dit, je veux 2,50 carats F VVS.
Oui.
Donc, la couleur était très précise.
D'accord.
Moi, je la connais depuis 10 ans. Je connais son futur nouveau mari depuis 10 minutes. Donc, j'ai fait une sélection de 3 diamants avec 3 prix. Et je lui dis, j'ai une très bonne affaire. Pour moins cher que la pierre que ta femme a demandé, j'ai une pierre qui est meilleure en qualité.
Oui.
Donc, pour moi, c'est...
Oui, c'est cadeau.
c'est cadeau. Et elle sera contente d'avoir mieux que ce qu'elle a demandé.
Oui.
Il m'a dit, non, mais je prends ce qu'elle a demandé.
C'est vrai qu'au bout d'un troisième mariage, il faut faire quand même attention. La diplomatie est importante pour le troisième mari, sachant que je sors des deux derniers.
Oui. Bah, pour la petite histoire, elle a divorcé de celui-ci l'année dernière.
D'accord.
On attend le quatrième.
On attend le quatrième.
On attend le quatrième avec impatience.
C'est bien, c'est régulier. C'est une cliente régulière.
Oui.
Et un client satisfait, c'est un client qui revient.
Dans tous les domaines.
Mais on peut même se poser la question si elle ne divorce pas justement pour avoir une nouvelle bague de fiançailles.
Non, je pense qu'ils divorcent l'un et l'autre. En
D'accord.
général, c'est les messieurs qui partent.
Hein. D'accord.
C'est donc, c'est pas elle qui divorce.
C'est plutôt lui. C'est le budget.
Je sais pas.
Non.
Moi,
non.
J'ai un très bon client à moi qui m'a donné un mantra un jour. Il m'a dit, il ne faut pas poser de questions, on ne veut pas connaître la réponse.
C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Mais maintenant, concernant les questions, parfois un petit peu de mauvais goût, moi, j'avais un client qui voulait faire une broderie distinctive de dragon. Alors, je lui demandais un dragon plutôt occidental ou un dragon chinois. Et le client n'étant pas du tout chinois, je m'attendais dragon occidental, il me dit dragon chinois. Et j'ai eu un peu de mal, mais je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Et en fait, ce que je lui ai proposé, j'ai un ami héraldiste et on a brodé son monogramme. C'est-à-dire qu'on a fait son monogramme, un ami héraldiste a conçu le monogramme, on lui a livré version papier, version estampillée, et puis sous un fichier de broderie, on a brodé son monogramme. Donc, ce qui a fait un peu avancer Schmiblick, mais on a permis de redresser le délire, parce que peut-être qu'après, on allait peut-être avoir une broderie avec Johnny Hallyday, avec des Harley Davidson et au Mont Rushmore sur le dos du costume. Et je voulais éviter ça.
Ouais.
Donc, parce que si on commence à donner le doigt, la main part rapidement, et puis le bras aussi.
Ah, moi, j'ai déjà fait des pendentifs Harley Davidson.
Ah!
Avec des symboles qui représentaient tel ou tel... Il y a des castes de Harley.
Oui.
J'ai appris ça à ce moment. Moi, j'apprends beaucoup dans mon métier. Sur plein de sujets. Et je sais que ça avait été assez amusant.
Ouais.
Ou en tout cas, enrichissant.
Ah oui, c'est impressionnant. Alors, vous êtes encore sur Radio Courtoisie, Libre Journal des Artisans, première partie avec Benoît Aguelon. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Aurélien Bire, artisan joaillier artisanal, au micro. Aurélien, au niveau de ce métier, donc on est passé sur... Quelle est une pièce en particulier emblématique? Emblématique de votre inspiration, de votre création, et qui est emblématique d'Aurélien Bire, joaillier, de AB Joaillier.
J'aurais du mal à définir une pièce. Ouais. J'ai l'impression, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi des fois je regarde mes photos de ce que j'ai fait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, enfin bref, de toute ma carrière. Et à chaque fois que je revois les pièces, c'est une émotion.
Oui, c'est on se rappelle c'est... qu'on a travaillé dessus.
Ouais, et de l'émotion que j'ai ressentie, de ce que j'en ai pensé.
Oui.
J'ai pas une pièce où je me dis c'est la pièce de ma vie.
D'accord. Oui, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte.
Mais non. Même, je le vis différemment. C'est plus des rencontres. Moi, j'aime l'humain.
D'accord.
Donc il y a des pièces, enfin il y a des clientes,
oui.
dont je me rappelle particulièrement des anecdotes, des moments de vie.
D'accord. C'est une mémoire sensorielle en fait.
Ouais, c'est presque et c'est quelque chose. Une des plus belles pièces que j'ai fait de ma vie, d'un point de vue esthétique, et une des plus chères, c'était un collier pour un mariage.
D'accord.
J'avais une.
C'est pas commun déjà un collier pour un mariage.
Ce qui est pas commun, c'est la suite.
Ah d'accord. Allez-y.
J'ai une cliente qui était ma meilleure cliente de l'époque, qui me commandait vraiment des bijoux tous les 2 mois. Elle commandait 2-3 bijoux. C'était. Elle avait beaucoup de soirées. Beaucoup. Elle arrive, elle me dit, écoute Aurélien, je voudrais un collier qui fasse riche, très riche, alors qu'elle était déjà très riche, pour le mariage de mon fils. Donc pour elle, pour le mariage de son fils.
D'accord.
Pas pour sa belle-fille. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Quelque chose d'important? Quelque chose de art déco? Enfin, j'essaie de cerner un peu l'idée. Elle me montre la photo de la robe qu'elle a commandée.
Oui.
Et elle me dit, je veux de l'émeraude. Donc déjà, j'ai deux informations intéressantes. Et je lui dis, pourquoi une émeraude? Elle me dit, parce que c'est la pierre préférée de ma belle-fille.
D'accord, sur un collier qu'elle va porter.
Qu'elle va porter elle-même.
D'accord.
Et ce collier, son fils est resté marié 3 mois.
Ah.
Et ce collier, c'était le symbole de ce naufrage.
Ah oui.
Elle m'a raconté à quel point elle la détestait, que de toute façon, elle ne resterait pas. Et qu'elle voulait lui montrer qu'elle la détestait en lui achetant rien.
Et en s'offrant
un collier. Et en s'offrant un collier extrêmement cher, alors qu'elle ne voulait rien payer pour elle.
Excellent.
Et c'est une des plus belles pièces que j'ai fait de ma vie, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue budget. C'est un énorme collier, ça a demandé 1 an et demi de travail.
Ah ouais, mais c'est et chargé d'une charge émotionnelle de
qui est mauvaise,
sorcière en fait.
Qui est mauvaise.
C'est ça.
Enfin, que je n'ai pas, enfin, que j'en garde pas un bon souvenir.
Ouais.
Alors que je sais que j'ai dans mes clientes une cliente que j'aime profondément. Qui est devenue une amie avec le temps, qui m'a jamais acheté de très belles pièces, mais tout ce que j'ai fait pour elle, il y a quelque chose de particulier. Il y a un feeling particulier.
Oui.
Même si ce n'est pas des pièces très chères, même si ce n'est pas des choses... parce qu'il y a un supplément de quelque chose.
C'est ça. C'est ça. C'est ce qui caractérise nos métiers de façon générale. C'est la charge émotionnelle qu'on a, qu'il y a dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on donne à l'objet et l'interaction qu'on a avec nos clients.
Ouais, la confiance, le partage.
Le partage, ouais, c'est ça. Et on met tout ça dans quelque chose avec lequel ils vont vivre. Et non, c'est très beau. C'est quelque chose qu'on ressent. Alors après, moi, je trouve que parfois qu'on travaille beaucoup trop dessus, qu'on fait des faits et tout ça. Il y a presque un phénomène un petit peu de répulsion, d'attirance, répulsion. On est content d'avoir livré et ouf. Même si la pièce est formidable, et moi j'ai pu livrer des belles pièces, mais j'ai même pas pris de photos. Ouais. Parce qu'il y avait une sorte de.
On regrette un mois après de pas avoir pris
et
la
après,
photo.
On regrette après de pas avoir pris la photo, mais bien sûr, mais c'est en permanence un petit peu comme ça. On est parfois dans un ascenseur même un peu émotionnel à ce niveau-là.
Ben moi là, je sors d'un collier que j'ai mis presque 8 mois à fabriquer pour un client. Ou vu qu'il y avait un délai de livraison pour un événement, enfin pour, le délai était précis, que le délai était très très petit. On a travaillé pendant 8 mois, 6 jours sur 7. On avait 2 à 3 personnes du bureau en permanence sur ce collier, sur des morceaux de collier pour pouvoir avancer le plus vite possible. Ce collier, je pense que dans 2 ans, quand je reverrai la photo, je serai fier.
Oui.
Là, je le déteste.
C'est ça.
Alors qu'il est beau, hein.
C'est ça. c'est fascination-répulsion. C'est, ouais. C'est, on est un petit peu. On voit, en discutant, puis en ayant préparé l'émission ensemble, et en ayant travaillé auparavant ensemble sur un projet, on voit qu'on a le même type de clients, des esthètes, du bien, du beau, du vrai. Et puis, en fait, on est tout à fait dans la même chose. Faut pas nous parler de délai.
C'est compliqué le délai.
Hein. C'est compliqué.
C'est un vrai sujet le délai.
C'est un vrai sujet, ouais.
Parce que on est obligé de, enfin, les choses qu'on nous achète ont un délai.
Ouais.
Ont un objectif en tout cas.
Oui.
Mais moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que une semaine en plus ou en moins, après, ils ont toute leur vie pour en profiter.
Oui. Oui, c'est ça.
On vend du long terme.
On vend du long terme et puis on veut pas. Et puis on aime bien. On fait ces métiers-là, qui sont des métiers passion, pour pas se mettre des nœuds dans l'estomac, des ulcères et tout ça. Enfin, c'est effectivement, c'est pas comme certains métiers qui requièrent une tension, ou de la part de l'entreprise qui donne une tension aux salariés ou à celui qui exerce des responsabilités, qui aboutit finalement au burn-out. On fait pas ce métier-là pour faire un burn-out.
Non.
On fait
ce métier-là parce qu'on aime les choses.
Un surmenage.
Ouais.
Donc, on fait pas de surmenage dans nos métiers. Ou très peu.
Moi, dans le mien,
oui.
On en fait quand même pas mal.
Ah oui.
On s'auto-surmène.
Ah oui, oui, c'est une pression de l'excellence.
La pression de l'excellence, des fois des timings, des choses qu'on devait pas faire et qu'on a du mal à faire dans le délai à partie, que la pierre doit être importée, exportée, passée en douane.
Ah oui.
Elle doit traverser la planète 3 fois. Enfin, des fois, il y a des vrais sujets.
Il y a un processus qui est, oui, de matière qui est, comme c'est une matière précieuse, oui, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc vous êtes aussi expert en douane, en quelque sorte.
Ah bah moi, je suis expert dans pas mal de sujets.
D'accord. Vous revendez des pierres, vous avez
On vend des pierres, ouais, on vend on va dire des plus classiques aux plus rares.
D'accord.
Moi la base de ma passion et la base de mon métier,
c'est la pierre.
C'est la pierre.
Ouais.
Moi c'est vraiment une émotion sur la pierre.
C'est le diamant de 10 ans, de l'âge de 10 ans à l'âge de 10 ans.
Ouais. Remis sur des pierres actuelles. Moi, des fois, je n'achète. J'ai un très très vieux diamantaire que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler qui m'a dit une chose une fois. Il m'a dit, il faut acheter ce qu'on aime. Parce qu'on ne regrette jamais de l'avoir.
Oui. Oui.
Même si on le garde 10 ans,
oui.
On ne regrette pas.
Oui, c'est ça.
Et moi, j'achète ce qui me donne une émotion. Parce que je sais que je saurais la transmettre.
C'est ça. Bah, vous faites très bien sur Radio Courtoisie, Libre Journée des Artisans, première partie. Donc, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Aurélien Bire. Aurélien, comme c'est une émission filmée, chers auditeurs, on a écourté un petit peu le temps d'interview pour avoir une plage musicale. Donc, on a encore 3 ou 4 minutes ensemble. Aurélien, question sur vos pierres, tendance aujourd'hui, quel est votre coup de cœur, est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs ou à donner allez-y, faites votre influenceuse, dites-nous aujourd'hui ce qui est vachement bien.
Alors,
ce qui est quelque chose qui est à la mode sans être à la mode, mais qui est beau et qui vous soulève un peu palpitant, quoi, en quelque sorte.
Plusieurs choses. Actuellement, si je peux me permettre un conseil d'un point de vue, on va dire investissement
ou économique,
c'est le moment d'acheter du diamant.
Ah.
Plus que de l'or.
D'accord, plus que de l'or.
Plus que de l'or.
Oubliez le platine.
Oubliez le platine. Ouais, non, pourquoi pas du platine, parce qu'il n'est pas très cher.
Oui.
Non, parce que les cours du diamant sont très bas, le dollar est faible par rapport à l'euro, donc c'est le moment d'acheter du diamant.
D'accord.
Pas par passion, mais parce que c'est beau.
Hum.
Si on sort du diamant, moi, ce que j'aime profondément, c'est certaines pierres. Le spinel, qui est une pierre qui est pas très connue, mais qui est beau. Un beau spinel, c'est vraiment une émotion.
Quelle couleur,
On en trouve en rouge, en bleu, en rose, en gris, en violet.
D'accord.
Et dans toutes ces couleurs mélangées.
Ah oui, comme une sorte de nuage.
Comme des sortes de nuages. Alors, elles n'ont pas toutes les couleurs, mais on trouve des gris-violets. On trouve
D'accord.
des roses un peu poudrées. On va trouver des roses Barbie. On va trouver des rouges presque plus beaux qu'un rubis.
D'accord. Du rouge cardinalis.
Ouais.
Pour rester dans l'actualité.
Des choses qui étaient extraordinaires.
Ah oui.
Ça, moi j'adore la Paraíba, qui est une variété de tourmaline extrêmement rare, qui est bleu lagon. Vous voyez un peu cette idée de...
Du tout. Alors, faut nous expliquer.
La plus belle mer. Vous êtes à Bora Bora, vous voyez le lagon.
Ah oui.
Le plus beau jour de l'année.
Ah oui, c'est ça.
Elle a cette couleur.
D'accord.
Elle a cette couleur. Et après, moi, j'ai une passion pour l'émeraude. Mais ça a toujours été ma passion.
Je trouve d'accord. que
une émeraude, c'est beau, ça parle. Il y a quelque chose de qui touche.
D'accord.
Moi, mais les plus belles pierres que j'ai vues ou que j'ai vendues, c'était des émeraudes.
D'accord, parfait. Merci Aurélien Bir.
Avec plaisir.
Donc vous pouvez retrouver Aurélien par email à abjoaillier@gmail.com ou sur Instagram, instagram.com/AurélienBir, BIR, sur Instagram. Merci Aurélien, c'était un vrai plaisir parce qu'on a vraiment senti la passion qu'il y avait à ce niveau-là. Et maintenant, chers auditeurs, nous allons faire une petite incursion musicale sur la thématique des bijoux avec Charles Gounod, l'ère des bijoux, puis Don Giovanni de Mozart, la scène du catalogue, et ensuite Léo Delibes, la chanson de la cloche. Donc voilà, merci chers auditeurs. Je laisse le micro à Alexandre Paolo pour la deuxième partie du Libre Journal des Artisans. Je remercie Claudia de la réalisation. Merci, à dans 4 semaines. Au revoir.
Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.